Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, je l'ai intitulé « Que vous dit votre cœur ?» Des fois, nous avons ce chant que nous chantons qui dit « Alors, entends mon cœur ». Et on dit dans le chant, entre autres, on dit que quand on réalise cette relation qu'on peut avoir avec Dieu, le Créateur, il est tellement grand, il est tellement infini, tellement vaste, on a l'impression qu'on n'est pas grand-chose. Et même à un moment, on dit « mes faibles mots ». L'apôtre Paul, qui avait eu une expérience céleste, il ne savait même pas s'il était réellement allé au ciel ou juste en esprit, mais disait « j'ai entendu là des paroles qu'on ne peut même pas rapporter ici-bas ». Donc, on a l'impression qu'il y a un grand décalage entre les deux univers, le monde spirituel et notre monde. Et donc, il dit « entends mon cœur, vois ce qu'il y a au fond de moi ». Écoute ce qui se passe dans mon esprit parce que moi j'arrive pas à le retraduire exactement comme j'aimerais. Et donc dans le même ordre d'idée, j'aimerais dire, et nous aussi, apprenons à interroger notre cœur. Donc interrogez votre cœur, mettez-y votre prénom. Il faut que j'interroge mon cœur, il faut que je vois qu'est-ce qui se passe au fond de vous, qu'est-ce que vous croyez réellement, quelles sont les choses que vous croyez. Parce que ce que vous croyez, c'est ce qui va vous pousser à agir. Que ce soit spirituel ou naturel, si vous croyez à quelque chose. Donc, il y a, la plupart du temps, il y a ce qui se passe en surface et ce qui se passe au fond. Mais nous, on sait qu'au fond, c'est très important. Quand le Seigneur a dit, il faut que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, ça veut dire, c'est au fond de nous qu'il y a des choses très importantes. Et trop souvent, on est occupé par les choses superficielles. On juge quelqu'un sur l'apparence, sur le premier regard, sur le premier comportement qu'on a eu. On voit certaines choses et on a l'impression que ça décrit la réalité. Mais la Bible nous le rappelle, elle dit « l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur ». Donc nous aussi. Donc actuellement, pour en ce qui nous concerne, c'est la récolte de certains fruits. Et donc, on récolte des figuiers à nos deux figuiers qui sont dans notre jardin. Et donc, l'évidence, c'est que quand on regarde globalement l'arbre, on voit pas tout de suite les figues qu'il faut cueillir. Il faut regarder en dessous des feuilles. Et c'est là qu'on voit, ah, c'est peut-être celui-là qui est le fruit mûr de la journée. Ça n'a aucun sens de récolter les figues en un seul jour, hein, parce que vous en auriez juste quelques-unes qui seraient mûres et tout le reste, ça serait encore vert. Donc, c'est un fruit qui est vraiment délicat et qu'il faut cueillir au bon moment. Et donc, des fois, nous cueillons aussi des mûres. Alors, les mûres, c'est aussi un fruit particulier. Vous avez des grappes et donc, quand vous passez, vous n'allez pas cueillir toute la grappe. Ça sera une ou deux baies par jour qui sera juste à point. Et puis vous revenez encore et encore. Et je crois que c'est un peu, dans notre vie, il y a aussi des choses comme ça. Il y a des choses qui arrivent à maturité et c'est le moment. Alors c'est ça qu'il faut travailler, cultiver, récolter. Et puis on passe de nouveau à autre chose, on y revient encore. Ça fait que dans notre vie spirituelle, c'est pas quelque chose que vous faites une fois pour toutes et ça y est, maintenant c'est terminé. Mais c'est quelque chose de quotidien. Donc au quotidien aussi, allez regarder ce qui se passe au fond de vous-même. Vous avez des rêves, des projets, des fois on a aussi des épreuves. Et ce que je disais par rapport aux choses qui sont en surface, ce qui domine, ce n'est pas toujours le plus important. Mais c'est ce qui accapare toute notre énergie et notre attention. Donc, si une des dominantes, c'est une difficulté, une souffrance, on va être accaparé par ça. Et ça va peut-être produire la peur. Ça, c'est l'objectif de l'ennemi de nos âmes, qu'on soit saisi par la peur. Comme ça, on va faire des erreurs de jugement et des erreurs au niveau de nos décisions. Donc, c'est important de voir que parce qu'on veut une vie différente, celle que Dieu nous a promise, on veut donc voir quelles sont les choses que nous pourrions faire autrement dans notre vie si l'argent, le temps, la peur, les croyances limitées, le jugement des autres n'étaient pas un problème. Parce que souvent, les gens, c'est un petit peu ça. Vous avez un rêve où Dieu vous a donné une mission, Ah, mais si j'avais l'argent, on pourrait le faire. Si j'avais le temps, on pourrait le faire. Certains ont dit, Seigneur, je te suivrai, mais laisse-moi d'abord faire ceci, cela. Toujours, Seigneur, moi, d'abord. Et donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, dans ce cas, on a une bonne nouvelle à partager, c'est que nous avons, si vous le croyez ou non, c'est mon premier point, nous avons un pouvoir très spécial qui nous permet de réaliser ces rêves ou ces choses que nous voulons accomplir, ces rêves précieux que vous avez en vous. C'est la capacité de choisir. Chaque jour, c'est pour ça qu'il faut puiser dans notre cœur et de voir quelles sont les choses que j'ai choisies et quelles sont les choses que je subis. Parce que trop souvent, nous agissons au quotidien, on ne fait pas des choix, on réfléchit longuement, même s'il y a une caricature pour ces dames d'être devant l'armoire et de dire « qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ?» Mais on trouverait autre chose pour ces messieurs aussi, qui fait que voilà, on est devant certaines choses, on prend longtemps pour décider certaines choses, alors que ça ne le mérite pas. Et d'autres choses, on les fait par habitude, alors qu'on devrait y réfléchir deux fois. Donc, beaucoup de choses, on ne les choisit pas, on le fait parce qu'il le faut ou par nos habitudes, par les modèles qu'on a vus, qu'on a reproduits. Des fois, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, il faut être honnête chez nos parents, et au bout de quelques années, on se rend compte qu'on fait les mêmes choses parce qu'on les a toujours vues. On les a toujours vues et ça a imprimé quelque chose en nous. Donc, ça demande un effort de dire, là, on a toujours fait comme ça, mais c'est pas forcément la meilleure façon de faire, ou peut-être c'est une mauvaise façon de faire, il faudrait faire autrement. Donc il y a les modèles, il y a aussi des fois des besoins physiques, quels qu'ils soient, donc c'est l'estomac qui commande. Quelque part, l'apôtre Paul avait écrit « ils ont pour Dieu leur ventre ». Donc ça veut dire que c'est les gens qui sont dirigés par des besoins physiques ou essentiels, ou pour certains ils sont dirigés par la convoitise, pour certains, ils sont dirigés par l'influence des autres. Tout ça au lieu d'un vrai choix. Donc, premièrement, revendiquer et rechercher quotidiennement d'avoir le droit de choisir certaines choses. D'ailleurs, souvent les gens disent « on n'a pas le choix ». Souvent, on a entendu cette expression « on n'a pas le choix ». C'est un mensonge par rapport à la parole de Dieu. Mais dans la situation dans laquelle on est, on peut effectivement avoir cette impression « on n'a pas le choix, je ne peux pas faire autrement ». Ça demande peut-être un effort, mais à un moment donné, on peut peut-être repenser notre vie et vivre autrement. Alors Deutéronome 30, au verset 15, avec la version 21, ça donne des fois un autre impact. Ça commence par « regarde ». Dans d'autres versions, on avait peut-être « voici, je mets devant toi ». C'est la même chose, mais ici c'est « regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. » Les deux sont attachés, la vie et le bien, la mort et le mal. « En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Donc même si c'était une promesse pour Israël pour entrer en Canaan, pour nous c'est notre Canaan spirituel, c'est le pays de l'abondance promis par Jésus. Ben, pour qu'on puisse y rentrer, voilà une prescription. Quand le médecin nous prescrit quelque chose, c'est que normalement on en a besoin pour le bien de notre corps, donc il faut prendre ce qui est prescrit. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Ce qu'on prend souvent comme une malédiction, ce n'est pas le désir de Dieu de dire des mauvaises choses sur nous. C'est simplement la conséquence que si vous faites certaines choses, il y a des conséquences en bien. Si vous faites d'autres choses, il y a des conséquences en mal. Donc, nous, se prosterner devant d'autres dieux, on imagine certaines religions, on a des statues, des idoles de toutes sortes, mais ça peut être n'importe quoi qui prend la place de Dieu. Et donc, il nous est dit, ça, c'est quelque chose qui entraîne la mort. Et si vous faites ça, vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le jour d'un passé, notre terre promise. Et au verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant, en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. » Quand on lit ici, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée, souvent les gens ont mal interprété en disant, alors il y a un dessein de Dieu, et il y a une durée de vie qui a été fixée, et quand l'heure est là, alors l'heure est là, et puis on ne peut rien y changer. Cette espèce de fatalisme n'est pas la réalité de ce que nous venons d'avoir lu. Au contraire, la prolongation, sa durée. Donc ça veut dire, la durée de la vie, elle dépend d'un certain nombre de critères. Ce n'est pas quelque chose qui a été fixé. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Abraham est aussi notre ancêtre, puisque nous sommes un fils d'Abraham par la foi. C'est le père des croyants. Et donc, s'il l'a juré pour Israël, il l'a aussi juré pour nous. Voyez donc, il y a le fait d'entrer en Canaan et il y a le fait d'y rester. Ici, il est dit y rester. Donc, faites de bons choix au quotidien. Regardez ce qu'il y a au fond de vous-même. Prenez le temps. Quand je pense le fonctionnement des vacances de certaines personnes, on part à l'autre bout du pays, je ne critique pas du tout, c'est juste une constatation. On part à l'autre bout du pays et puis on veut faire plein d'activités. Même aller sur la plage et lire, c'est une activité. Mais il y a un besoin de vacances toute l'année. C'est-à-dire un moment où on décroche un petit peu par rapport aux activités, même en une journée. Il faut qu'il y ait un moment où on peut regarder au fond de nous, méditer, recharger nos batteries, être dans cette présence de Dieu. Bien sûr, il a promis, je suis avec vous tous les jours, mais il y a un moment où on jouit de cette présence de Dieu. Donc, deuxième point, on a dit choisir. Deuxième point, c'est activer le pouvoir que vous avez en vous grâce à la parole de votre Créateur. Vous avez un pouvoir en vous. La plupart des gens sont endormis. Ils ont oublié ce pouvoir fondamental de l'être humain. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir fondamental? Il se manifeste aussi dans Proverbe 4, quand il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Car de lui viennent les sources de la vie. C'est donc au fond de nous-mêmes qu'il y a les sources de la vie. Dieu a mis en nous une source de la vie. Et donc ils ont oublié quel pouvoir, cette capacité d'activer ce qu'il vient du plus profond de nous-mêmes. À un moment, Jésus a pris cet exemple, il l'a dit dans Jean 7, il a crié à ce moment-là, parce que des fois il y a des gens qui imaginent que Jésus c'était un peu monotone, hein, toujours un peu doux et affable. Non, il savait aussi crier, il savait donner de l'emphase, il savait mettre sa voix et toute son expression en rapport avec ce qu'il était en train de communiquer. Et il nous a dit, le grand jour de la fête, le dernier jour, il s'est écrié que celui qui a soif, qu'ils viennent à moi qui boivent. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Son sein, c'est son être intérieur. Des fleuves d'eau vive. Vous voyez la différence entre... On en a déjà parlé de ça, mais c'est bon de le rappeler. Dans Jean 4, il parle avec la Samaritaine et il dit, moi, j'ai une eau qui va en vous être comme une source d'eau vive. Et dans Jean 7, il dit, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Donc, apprenez à activer et à puiser de cette source qui est en vous. Vous, je le crois et je le déclare, que vous êtes plus ouverts que la plupart des gens. Vous n'êtes pas comme ceux qui sont endormis. Vous avez des rêves plus grands, vastes. Notre rêve, il va jusqu'aux extrémités du monde. D'accord ? C'est un rêve mondial, global. Dieu a tant aimé le monde. On ne se réduit pas à « Seigneur, bénis-moi » et juste... Encore un peu, peut-être le petit cercle de proches immédiats, non. Mais l'idée de Dieu, c'est que ça aille plus loin. Donc, vous qui êtes plus ouverts, vous avez des rêves plus vastes, est-ce que vous ressentez cette puissance extraordinaire que vous avez en vous? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous le réalisez? Éphésiens 3:20, Dieu peut, par la puissance qui agit en moi, faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense. Mais ce pouvoir, il suffit pas de dire, voilà, comme un perroquet, Dieu peut. À un moment donné, il faut l'activer, il faut dire, Dieu peut par la puissance qui agit en moi, et réaliser que ce pouvoir du Saint-Esprit agit en nous, et qu'il produit quelque chose. D'accord? Laissez-le agir jusqu'au bout, produisez. Si vous ouvrez le robinet qui a un petit filet d'eau qui coule et tout de suite après vous le refermez, ben vous n'aurez pas grand-chose qui sera sorti. C'est un petit peu la même chose dans notre vie. Si on veut qu'il y ait abondance d'eau, il faut laisser le robinet plus ouvert. Des fois, on parlait aussi de l'interrupteur de la foi. Quand vous déclenchez quelque chose par votre prière, vous allumez l'interrupteur de la foi. Si vous éteignez tout de suite après, la pièce est de nouveau dans le noir. Si c'est un moteur électrique, si vous le mettez en route et que vous le coupez, bah, il ne tourne plus. C'est des choses naturelles évidentes. Et dans le spirituel, on a quelques secondes où on est dans la présence de Dieu, on active quelque chose, on prie pour quelque chose, et après, on se coupe de nouveau. Non, continuons. C'est comme une bûche qui n'attend qu'une étincelle pour s'enflammer. Dans Jacques 3, on a une description concernant ce qu'un petit feu peut faire. C'est des choses qui nous semblent naturelles, évidentes, sauf que quand on l'applique au spirituel, on est presque surpris de « Ah oui, ça marche de la même façon ?» Ben oui. Parce que Jacques n'était pas tellement intéressé de nous faire des descriptions de comment fonctionnent les navires ou comment on guide un cheval. C'était pas ça le but principal de ce qu'il a écrit dans son épître. Le but était totalement différent, mais il prend des illustrations. Et à un moment donné, au chapitre 3, donc il dit, au verset 5, « La langue est un petit membre de notre corps, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Là, c'est dans un sens négatif, il dit « La langue, c'est aussi un feu, parce que c'est aussi un membre de notre corps qu'on peut utiliser pour faire le mal. » Mais plus loin, quand même, il rectifie en disant que de la même bouche sorte la bénédiction, la malédiction, et il faut pas que ça soit comme ça. Il faut que ça soit que la bénédiction qui sorte de notre bouche. Il faut que ça soit que de l'eau douce. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Donc, ce que nous produisons par notre bouche, et ce soit une bonne chose. Un feu, mais dans le bon sens du terme. Donc il n'y a rien de magique là-dedans. Ce pouvoir, il est en nous. C'est le simple résultat de la pleine utilisation de ce que Dieu vous a donné. Et qu'est-ce qu'il vous a donné, entre autres? Un cerveau. Il nous a donné un cerveau. Quand il est dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ton âme, toute ta force. Selon les évangiles, il y a trois éléments qui ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est la même chose. Ça veut dire que toute ta pensée, notre cerveau participe aussi. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans notre cerveau et notre raisonnement. Des fois, on dit, il y a la chose spirituelle qui est bonne, et puis nos raisonnements sont mauvais. Non, on peut renouveler notre intelligence, et on peut appliquer toute notre intelligence à faire des bonnes choses que Dieu attend de nous. D'ailleurs, au niveau de notre cerveau, certains examens ou observations médicales, on dit qu'il y a un effet placebo. Donc, simplement en prenant un médicament et croyant qu'il y a quelque chose qui est bon là-dedans, ça a un effet sur notre corps. Et on a fait des tests que des gens qui prenaient de simples petits granulés, pilules, où il n'y avait rien dedans, le fait de les prendre a eu un effet sur leur guérison. Je sais jamais comment ils font pour calculer les pourcentages. Hein. Alors je vous les livre, mais sans garantie, mais là j'avais lu quelque part, ils disaient, sans aucun médicament actif, ils estimaient qu'il y avait un effet placebo, généralement entre 30 et jusqu'à 70% qui augmente la guérison. Je ne sais pas comment ils calculent, mais en tout cas, il y a un effet qui fait que si vous y croyez, si vous pensez que c'est agissant, c'est mieux que si vous le faites sans y croire. Donc vous avez ce pouvoir en vous, mais vous l'avez reçu en vain si vous ne l'utilisez pas. D'accord? Donc, encourageons-nous à l'utiliser. Et ce n'est pas compliqué de le libérer. Dieu n'a pas rendu les choses compliquées pour nous. Dans le psaume 4, verset 5, en plus, c'est quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer. Il nous est dit, parlez dans votre cœur sur votre lit et faites silence. Dans une autre version, c'est parlez en votre cœur sur votre couche, puis taisez-vous. Donc, il y a des gens qui font toutes sortes de choses. Je ne suis pas contre le fait de occasionnellement se mettre à genoux devant Dieu ou même de se prosterner. Vous pouvez prier assis, debout, couché, dans toutes les positions que vous voulez. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est l'attitude de cœur. Si dans l'attitude de cœur, vous voulez une fois le manifester physiquement, en vous prosternant, c'est bien. Mais il n'est pas besoin forcément de martyriser votre corps pour prier plus efficacement. Et donc, rien ne vous empêche de méditer en étant couché. D'accord? Le psaume qu'on chante des fois avec des cris de joie, le chant, il dit « Je médite sur toi et scellé sur ma couche ». Donc, il y a aussi des moments où nous pouvons simplement être là, à penser à Dieu. Et faire quoi? Ben, parler dans notre cœur. Avoir des moments où on parle, mais il nous est dit « Puis faites silence ». Pas « je parle ». Si vous avez un dialogue, il n'y en a qu'un seul qui parle. Ce n'est plus un dialogue, dans un sens ou dans l'autre. Il suffit d'un geste pour changer de chaîne de télé, la télécommande. Il peut aussi être simple de changer la chaîne de votre vie pour passer d'une chose à l'autre. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez déclencher quelque chose. Mais comme j'ai dit, les habitudes sont des fois ancrées, alors on ne peut pas juste zapper comme ça. C'est pour ça que aussi souvent, nous ne sommes pas des êtres à 100% spirituels, 24 heures sur 24. Donc on est occupé par toutes les affaires du monde, et l'instant d'après, on est dans un culte, une réunion de prière, on a besoin d'une pensée de Dieu, et ça ne vient pas tout de suite comme ça forcément. Mais ça ne veut pas dire que c'est compliqué et que ça doit durer longtemps. Ça doit aussi nous libérer, c'est-à-dire non, c'est possible. Surtout si on prend l'habitude de parler dans notre cœur. 1 Corinthiens 14:2, une façon de parler dans notre cœur, c'est de prier dans l'esprit ou de parler en langue. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Le mot mystère, ça veut dire quelque chose qui est caché. Ça ne veut pas dire que ça doit rester caché. C'est caché pour un temps jusqu'à ce que ce soit révélé. Mais en attendant, ça produit quelque chose. Il nous est dit celui qui prophétise, il parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Et celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue. Ailleurs, il dit encore dans le même chapitre que c'est une façon de rendre d'excellentes actions de grâce. Donc des actions de grâce. Alors, utilisez cette capacité. Ne n'ayez pas une partie de votre être qui soit pas du tout actif, alors que c'est la partie la plus importante, le cœur, l'esprit. Et le troisième point, donc, qui va un peu dans le même sens, j'ai déjà dit activer le pouvoir, c'est le pouvoir de la langue. Activer le pouvoir que vous avez en vous grâce au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Utilisez constamment votre langue, votre capacité de vous exprimer en faveur de la vie. On a déjà vu tout à l'heure l'histoire du petit feu qui allume une grande forêt. Mais vous voyez, on peut aussi allumer du feu avec un morceau de verre. On a peut-être déjà une fois fait l'expérience avec une loupe. Mais c'est pas le verre qui crée la chaleur. Voilà, il focalise les rayons du soleil comme une loupe, et c'est là que justement le feu s'allume. Et donc de la même façon, ce n'est pas nous qui produisons le feu. Nous sommes juste ceux qui laissons le feu passer au travers de nous. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul a écrit à son enfant spirituel, à Timothée, dans 2 Timothée 2:6, « C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. » Lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Donc l'imposition des mains, on peut imposer les mains pour transmettre une bénédiction, soit pour guérir, soit pour installer quelqu'un dans un ministère, soit pour prier pour lui, pour qu'il reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. En tout cas, Paul, à un moment donné, il avait posé ses mains sur Timothée et il nous est dit, à ce moment-là, il a reçu un don de Dieu. Un peu plus loin, il dit, ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que vous avez reçu, mais son esprit vous remplit de force, d'amour et de sagesse. Donc quand vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, vous avez ces choses, mais il nous est dit, Je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu. Donc, avec tout cela, j'aimerais encore vous donner cette image des arènes et des athlètes. Dans Hébreux 12, il est dit, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Et c'est comme si nous, on était dans la course et on a cette nuée de témoins, tous ces gens qui étaient avant nous et qui regardent. Et ils sont tous là pour nous encourager. Et il nous est dit que nous devons donc courir dans la course. Ces paroles que nous activons, ce sont des paroles qui donnent la vie. Jésus disait, mes paroles sont esprit et vie. Et j'ai pensé à ça. C'est les paroles de Jésus, c'est pas qu'elles seulement produisent la vie, c'est les paroles elles-mêmes qui sont la vie. La vie était la parole de Dieu. La parole de Dieu était la vie. Les choses sont intimement liées. On ne peut pas juste dire c'est l'un qui produit l'autre. C'est à un moment, on ne sait plus où ça commence et où ça s'arrête. C'est imbriqué. Et donc, laissez ces paroles de vie se manifester constamment en vous. Activez ce pouvoir que vous avez. Et prenons en conclusion juste quelques instants. Prenez quelques instants pour vous faire du bien maintenant. Vous pouvez respirer profondément si vous voulez. La prière, pour moi, c'est la respiration de l'âme. Autant la parole de Dieu, ça peut être des fois la nourriture spirituelle, mais la prière, c'est la respiration. On ne peut pas rester en apnée constamment, là, être en bonne santé. Voilà, il faut à un moment donné... Et puis des fois, quand on a du stress, on ne respire pas bien. Et donc, on a besoin de... C'est pour ça que toutes ces techniques de relaxation, de médecine, de toutes sortes, elles essayent d'agir sur certains mécanismes de notre corps. Mais c'est pas parce que certaines choses sont un peu bizarres, point de vue spirituel, que nous, on va s'arrêter de respirer, de se détendre et de se relaxer. Nous avons à respirer. Et spirituellement aussi, on a à respirer. Donc, la prière, je vous exhorte à le faire, c'est maintenant de prendre un moment. Dans ce moment, quand j'ai dit « Que vous dit votre cœur ?», je voudrais que vous entendiez de Dieu et que vous entendiez en vous-même quelque chose que Dieu va vous dire. Souvent des gens disent « Mais comment Dieu parle ?» et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire et comment l'entendre. Dans 1 Rois 19, verset 11, il y a une expérience très forte qu'a faite le prophète Élie. L'Éternel lui a dit « Sors, il était caché dans la caverne, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et on comprend que la parole de Dieu s'est faite entendre d'une façon douce et légère. Souvent, nous, on voudrait que Dieu parle fort aux incroyants, à ceux qui sont rebelles, à ceux qui s'opposent, etc. Et Dieu peut le faire. Il peut, des fois, manifester sa puissance. Mais la plupart du temps, avec nous, il veut qu'on ait ce temps de silence où on entend le murmure doux et léger et le message de Dieu. Certains, si jamais vous n'entendez rien du tout et rien ne se passe au niveau de votre cœur, alors je suggère une transplantation cardiaque. Ézéchiel 36, 26 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, qui n'est pas né de nouveau, d'entendre de Dieu au fond de lui-même. Il faut que d'abord que Dieu vienne en lui pour que ça puisse marcher. Donc, si un cœur est dur, il est... Les chrétiens aussi peuvent s'endurcir, mais c'est pas la même chose, et c'est pas, bien sûr, une bonne chose. Mais quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu, il ne peut pas l'entendre au fond de lui. Mais quelqu'un qui est né de nouveau ne doit pas se laisser endurcir et continuer de travailler pour que ce cœur nouveau que Dieu nous a donné, cet esprit nouveau, puisse faire remplir le rôle que Dieu a prévu pour lui. Donc, prions un instant, prenons du temps. Ressentez la puissance de Dieu qui se manifeste. Moi, je ne peux pas le produire. Je ne sais pas si vous avez offert la chair de poule ou autre chose. Mais attendez-vous à ce que quelque chose de la part de Dieu se manifeste. expérimenter que la peur par rapport à une situation parte et que à la place il y ait la joie, l'amour qui se manifeste. Apprenez à écouter votre esprit. Et donc je vous souhaite de vivre pleinement votre vie, d'avancer chaque jour sur ce chemin où Jésus a dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et une vie en abondance. Amen.
Nous espérons que vous avez été béni par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.